Vous êtes toujours sur HDR. J'ai oublié de noter quel était le morceau que nous écoutions. Donc Nicolas, de sa douce voix, va nous le dire.
Là, tout de suite, là ouais. On écoutait le reportage, là.
Ah oui, c'était la musique de la fin du reportage. C'était Ours Vélo, voilà. Merci, Émilien. Les minutes passent et on peut considérer que c'est ma quatrième boulette de l'émission. Voilà. Douzième, me dit Émilien. Donc tout va bien, je m'améliore. Pour continuer cette émission spéciale sur HDR, en partenariat avec Guidoline, nous sommes toujours dans le café, à l'abri de la pluie. Je reçois Valérie. Bonjour, Valérie.
Bonjour, Rebecca.
Et donc, ensemble, nous allons parler de Robin des Bio.
Tout à fait.
Voilà.
Société coopérative.
Société coopérative dont tu es la présidente.
Tout à fait. Exact. Depuis, on a ouvert en février 2014, donc c'est tout à fait récent.
Voilà, de quelques mois. Alors, dites-nous tout. D'abord, il faut expliquer aux auditeurs, les Robin des Bio, quel est le point de départ ? Qu'est-ce qui était le point saillant avant de créer, de mettre en place ce projet ?
C'est plusieurs années d'AMAP. Je pense que je peux toujours rappeler ce que c'est, l'association du maintien de l'agriculture paysanne. Donc, on avait créé, j'avais aidé à créer sur le territoire elbeuvien en 2008. Après plusieurs années d'existence, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont bien et des choses qui vont moins bien. Donc, on réfléchit à comment pouvoir faire évoluer une structure. En parallèle, bien sûr, il ne s'agit pas de s'attaquer à la MAP qui existe toujours, heureusement, mais de retrouver tous ceux qui passent à la MAP et qui, par le mode de vie qu'on mène, le manque de temps, et tout le monde n'est pas militant, pouvoir récupérer tous ces gens qui souhaitaient manger local et bio, puisque la plupart de nos produits étaient bio, ou tout du moins très sains, sans pesticides, etc. Donc comment les retrouver et ne pas les laisser repartir vers les grandes surfaces, là où ils étaient repartis ?
Donc ce point de départ, et donc le projet Robin des Bio a commencé à germer, à pousser, et maintenant...
Il y a plusieurs années.
Il y a plusieurs années de travail.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, le projet existe. Donc pour les habitants de Rouen, de son agglomération... comment on peut rejoindre, s'informer sur les Robin des Bio et découvrir les services qui sont proposés ?
Alors aujourd'hui, nous avons des moyens techniques tout à fait modernes comme un blog, un site pour les gens qui sont un peu loin d'Elbeuf.
Donc lesrobindesbio.fr, tout simplement.
Tout à fait. Voilà. Alors pour l'instant, ça va devenir aussi un site où on pourra acheter. Pour l'instant, ça ne l'est pas encore, donc c'est en cours de construction. Par contre, c'est redirigé vers notre blog qui est alimenté régulièrement avec toutes les infos. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous rendre sur place, vous pouvez nous appeler. Enfin bref, tous les moyens pour nous contacter sont les bons. Après, on vous expliquera comment devenir souscripteur, puisque c'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc dans le cadre des SCOP et de l'économie sociale et solidaire. Pour être souscripteur, nous sommes aujourd'hui plus de 400 souscripteurs.
Déjà 400.
Oui, tout à fait. Notre assemblée générale aura lieu la semaine prochaine. Ouais. On espère pouvoir faire entrer tout le monde dans les locaux.
Ouais,
non, on pense que tout le monde ne viendra pas, mais... Se rendre sur place ou télécharger le bulletin de souscription. Donc, il est à 20 euros pour prendre part à la société.
D'accord. Voilà. Et alors, une fois qu'on est souscripteur, qu'est-ce que l'on fait au Robin des Bio ?
La chose la plus évidente, la plus facile à comprendre, c'est qu'on peut venir acheter les produits que nous vendons dans le magasin aujourd'hui, qui sont des produits tous bio, locaux quand ils existent en local et non locaux quand ils n'existent pas en local. Les oranges, les bananes, par exemple, n'existent pas, n'existeront pas demain en local.
Ouais.
Après ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, mais c'est la partie la plus visible. Bien sûr, quand on vient, on appartient à une société coopérative d'intérêt collectif, et là, c'est là qu'on trouve tout son sens. On peut donner de son temps, on peut être bénévole, quelles que soient ses compétences. Après, le magasin appartient à tout le monde. Donc, nous avons un espace convivial avec un comptoir, un petit bar où on ne sert que, pour l'instant, des choses non alcoolisées. puisque nous ne vendons pas, nous n'avons pas encore de petite restauration, mais un jour on fera autrement. D'accord. Et donc, on peut aussi passer derrière le comptoir, préparer le café pour accueillir les gens qui viennent, qui peuvent être souscripteurs ou simplement clients. Mmh. Nous ne sommes pas obligés, les gens ne sont pas obligés d'être souscripteurs pour acheter dans le magasin.
Mmh. C'est un peu le système que les gens peut-être connaissent peut-être des Biocoop.
Voilà.
Donc, c'est un peu le même principe. Alors, est-ce que le fait justement d'avoir une boutique qui est un lieu complètement ouvert sur la ville, ça a permis de capter ou de faire rentrer, découvrir des gens qui n'étaient pas justement dans ces réseaux militants d'AMAP, etc.
Mais tout à fait, puisque nous avons démarré avec une AMAP, mais aussi en parallèle avec un magasin qui existait, qui travaillait avec Biomonde. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous sommes complètement indépendants de tout grand distributeur de produits bio. Tous les clients de cette ancienne épicerie viennent aujourd'hui s'approvisionner à la SIC. Mm-hmm. Donc, c'était des gens, pour la plupart, qui ne connaissaient pas du tout ni le milieu associatif, mm-hmm. ni le monde des bénévoles. Mm-hmm. On est contents de découvrir que des gens que l'on pensait éloignés du monde du bénévolat mm-hmm. s'en rapprochent et comprennent bien la démarche. C'est pas le cas de tout le monde, mm-hmm. de toute façon, on touchera jamais tout le monde. Ouais. Mais des gens qui viennent donner un coup de main de façon tout à fait ponctuelle ou plus régulièrement, à tout dans le magasin en fait, puis à l'organisation à côté et la promotion de l'économie sociale et solidaire.
Mmh. Alors le terme d'économie sociale et solidaire, tu l'as employé plusieurs fois, donc on sent que c'est un vrai enjeu.
C'est ce qui fait notre différence, tout à fait. Mmh.
Et comment justement dans donc ces valeurs...
Pas une définition, je vais avoir du mal.
Non, pas une définition, mais ces valeurs qui sont fortes. Est-ce que quand on doit gérer une boutique avec son quotidien, ses enjeux de fournisseurs, de ventes, d'une certaine rentabilité, comment on arrive à véhiculer ces valeurs au quotidien justement avec ces gens qui sont loin de toutes ces problématiques-là et de les sensibiliser à ça ?
C'est pas un métier simple tous les jours. Effectivement, puisque nous avons des marges à générer pour payer nos salariés, pour payer nos locaux, tous les frais. Mais en même temps, le principe même de la SIC et de l'économie sociale et solidaire, c'est de replacer non pas l'argent et la finance au cœur du commerce, mais l'humain. Donc c'est ce qu'on essaye de démontrer à chaque fois, c'est que toutes nos actions, on les fait en réfléchissant à comment améliorer le sort de nos salariés, de nos consommateurs, de nos producteurs. L'humain est vraiment au cœur de la démarche.
Alors passons en amont de la filière aux fournisseurs. On sait que la région Haute-Normandie est loin dans le classement français de production de produits issus de l'agriculture biologique. Est-ce que tous les mouvements, alors que ce soit les Robins des Bio, les AMAP, tout à l'heure on a reçu Malcatopole qui nous a parlé des incroyables comestibles, donc toutes ces démarches de réflexion autour de l'alimentation, est-ce que ça prend ? Est-ce que de plus en plus de fournisseurs se disent ou de contacts se disent il faudrait peut-être que j'évolue, pas forcément au départ par conviction, mais de se dire il faut être en phase avec la société, on doit changer. Est-ce que vous sentez un mouvement, une évolution de cette phase du producteur qui va changer son mode de production ?
On la sent assez en profondeur, mais elle est très très lente. Elle évolue vraiment très très lentement. Non pas du manque de volonté en fait des producteurs, même des producteurs qui sont aujourd'hui en conventionnel. Mais par les difficultés et psychologiques et financières que ça engendre. Donc effectivement, c'est très très lent, mais je pense que c'est véritablement ancré maintenant dans les têtes de beaucoup, beaucoup de producteurs.
D'accord. Alors les producteurs, et puis allons en aval. Donc de plus en plus, comme tu le disais, de gens qui viennent, qui découvrent, qui sont ainsi sensibilisés et qui font évoluer leur mode de consommation. Là aussi, vous sentez que les choses évoluent ou vous avez l'impression que malgré tout, ça reste un entre-soi, un monde, un microcosme de...
Non, là, je pense qu'effectivement, ça évolue beaucoup plus vite. Je pense que le consommateur aujourd'hui, même si j'aime pas l'appeler comme ça, mais on l'appelle consommateur.
Voilà, le fameux consommateur.
Le fameux consommateur, mais c'est difficile d'être consomme-acteur. C'est vrai que dans nos milieux, ceux que tu as cités, on les rencontre plus qu'ailleurs. Mais ceci dit, c'est quand même pas si simple que ça d'être acteur. Je pense qu'effectivement, il y a un réel changement de mentalité dans le mode de consommation. Que c'est beaucoup plus rapide là que ce qui peut se passer sur le terrain en termes de production, etc. Les gens sont en demande. Mais bien sûr, aujourd'hui, ils sont en demande. Après, aujourd'hui, bon, ben, c'est un peu dur de joindre les deux bouts pour tout le monde. Et effectivement, bon, les problèmes de prix restent quand même un frein bien souvent.
Alors justement, l'argument que l'on avance lorsque l'on parle de la question du prix de ces produits biologiques qui peuvent être plus chers, on parle aussi d'un prix plus juste, que les autres produits ne sont pas au prix juste. Mais est-ce que justement, parce qu'on disait que la boutique, tu disais que c'était la face émergée de l'iceberg, est-ce que dans celle qui est moins visible, il y a un travail de mener, peut-être des partenariats avec d'autres acteurs du territoire ?
Tout à fait, nous sommes... D'abord, il y a des volontés de travailler sur les quantités, sur le vrac, sur l'emballage, enfin, diminuer tous les coûts qui sont liés à autre chose que le produit que nous consommons. Ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, nous travaillons en partenariat avec des acteurs locaux qui sont bien connus, Alterno, par exemple, avec d'autres magasins bio. Nous travaillons aussi... un des gros problèmes en dehors de l'approvisionnement, c'est la logistique aussi. Donc là, nous entraînons vraiment. Il y a une véritable entraide, une compréhension de problèmes communs. Et il y a une véritable bonne dynamique. Et alors, je ne parle pas des biocoop puisque nous ne travaillons pas avec eux, mais tous les autres acteurs, on s'entend vraiment très bien. On est en partenariat avec d'autres sites qui sont créés sur le territoire, par exemple d'Evreux. On travaille très bien avec la compagnie des pins bio. C'est des échanges de bons procédés.
Et est-ce que vous travaillez alors peut-être avec des établissements scolaires ou d'autres acteurs, on va dire, plus classiques du territoire pour sensibiliser à comment on repense son alimentation, par exemple. On va mettre peut-être un peu plus cher au kilo pour le prix de ces courgettes, mais par contre, vu qu'on va repenser son alimentation, on va faire des économies parce qu'on sera passé de 5 fois de viande par semaine à 2 fois ou des choses comme ça.
Alors effectivement, c'est des choses que nous faisions déjà avant d'être les Robins des Bio en tant qu'AMAP. Nous ne sommes que très peu allés dans les écoles, mais nous espérons bien un jour pouvoir y entrer. Par contre, nous continuons de travailler avec des centres sociaux, avec la MJC du territoire, avec de nombreux partenariats, avec la ville. Nous avons participé à CNDT, qui était l'équivalent de Rouen-Plage à peu près. Donc nous avons côtoyé beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants des quartiers. Donc effectivement, nous ne sommes pas allés dans les écoles, mais oui, nous avons des ateliers de cuisine. Nous expliquons comment faire des produits par nous-mêmes. Et donc forcément, un coût de revient beaucoup moindre.
Moins élevé. Quels sont aujourd'hui les projets à court, moyen, long terme des Robins des Bio ? Est-ce qu'il y a des axes de travail particuliers au-delà de faire tourner la boutique et de pérenniser l'activité ?
C'est quand même sur les 2-3 premières années, c'est quand même la volonté première, puisque on sait bien que
faut passer les trois premières années.
Donc nous avons dans ce but-là la volonté de développer des partenariats. Par exemple, nous sommes en attente de notre site e-commerce, puisque avec ça on pourra vraiment travailler avec d'autres partenaires beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Donc par exemple, nous souhaitons développer un partenariat avec l'hôpital d'Elbeuf.
D'accord.
Donc c'est avancé, on va signer une convention. On est en partenariat, on va signer aussi une convention avec le Secours Populaire, par exemple, pour alors à la fois développer notre activité et notre chiffre d'affaires pour pouvoir donc générer et créer forcément des emplois. Hein. Oui. C'est quand même le but à la clé. Mais aussi, à côté de ça, ne pas penser qu'à effectivement créer des richesses pour nous, pour pouvoir les repartager. Hein, parce que je rappelle bien que le système de la société coopérative d'intérêt collectif, c'est de réinvestir systématiquement tout l'argent gagné dans l'entreprise, pour les salariés ou pour l'entreprise. Mais ça ne va nulle part ailleurs, dans aucune autre poche. Nous souhaitons aussi développer toutes sortes de partenariats, les approfondir, ceux qui existent aujourd'hui. Après, en projet, c'est vraiment nos gros projets, c'est ça, c'est le site e-commerce, le partenariat avec l'hôpital, et puis développer des points relais aussi, nous souhaiterions faire ça.
D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est aussi un enjeu, la proximité.
Ouais, tout à fait.
En discutant avec des gens, on se rend compte que la sensibilisation, elle est faite. Après, il faut que la proximité, la facilité
de
l'accès, voilà, oui. Faut que ça soit que voilà, cette facilité soit mettre vraiment en concurrence avec des systèmes plus classiques. Donc c'est vrai que c'est un enjeu.
Et un autre enjeu, j'expliquais le problème d'approvisionnement et de logistique. Donc c'est effectivement d'aider les producteurs locaux à s'organiser avec nous, avec tous les revendeurs. Voilà, on essaye de retrouver les chaînons manquants dans les dans les filières. Ouais, en fait.
Et donc, alors aujourd'hui, donc c'était ouvert au mois de février, donc quelques mois d'expérience. Est-ce que déjà vous avez, alors je ne demande pas l'autocritique, mais est-ce que en quelques mois comme ça, vous avez pu déjà vous dire ah ben là il y a des choses qui marchent pas, il y a une espèce d'évaluation continue qui vous permet d'adapter votre offre, votre façon de fonctionner pour un maximum d'efficacité. Parce que c'est vrai qu'on peut parfois avoir des retours, alors de moins en moins, mais de dire « Ah oui, mais l'ESS, ce sont des militants, voilà, sur la technicité, savoir s'auto-évaluer pour avancer et montrer qu'on est aussi solide qu'un distributeur plus classique. » Enfin voilà, faire la preuve.
Alors, effectivement, on avait cette volonté. Puisque nous souhaitons être pérennes. Nous avons cet été, pendant 4 mois, accueilli un stagiaire en master de management, ESS, donc pour évaluer un petit peu nos pratiques, là où on en était. Donc effectivement, on a des choses à revoir. Notamment, on a revu cet été l'aménagement du magasin. Des choses voilà, qu'on avait imaginées d'une certaine façon, et dans la pratique, ça ne fonctionne pas comme ça. Après, sur notre façon de fonctionner, effectivement, comment c'est très difficile de faire vivre la démocratie, puisque c'est une société qui essaye de fonctionner de façon démocratique. Donc, comment consulter mieux les gens, avoir plus vite des retours, puisqu'il faut quand même prendre des décisions assez rapidement. Et le fait de consulter beaucoup de personnes... Bon, on ne consulte pas les 400 à chaque fois, on fonctionne avec un conseil d'administration, mais on essaye d'être le plus démocratique possible. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des choses à améliorer. Après, en approvisionnement aussi, on se rend compte que c'est difficile de travailler. On avait souhaité travailler avec un producteur, le plus possible, de pas les mettre en concurrence. Alors, on souhaite toujours pas les mettre en concurrence, mais on se rend compte qu'on est obligé d'aller chercher sur plusieurs producteurs, même pour un même produit. Voilà, donc c'est des choses qu'on est en train de réajuster. Et puis la promotion de l'ESS, on ne le fait pas assez, donc on réfléchit à comment mieux faire. On est en contact avec la CRES.
La Chambre régionale de l'économie sociale.
Tout à fait. Dès que nous pouvons, nous allons chercher leurs panneaux pour faire un peu de promotion. Mais c'est pareil, eux sont en manque de support aussi adéquat. Donc on réfléchit avec eux aussi à comment faire pour mieux toucher le grand public. Voilà. Ce que je pouvais dire.
Donc un projet en développement qui se consolide. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Robin des Bio ? Eh bien, de passer ce fameux cap des 3 ans. Mais dans ce cas-là,
on se retrouve... le triplement des surfaces en bio d'ici 2017, ça serait pas mal non plus.
Donc là, c'est aussi un enjeu qui est sociétal, parce que développer le surface, c'est un enjeu pour les pouvoirs publics. Il faut sensibiliser les agriculteurs, etc. Donc c'est... un long travail qui vous attend, mais comme on le disait, de plus en plus, et en plus sur HDR par exemple, vous étiez déjà venu, l'association, la société pour en parler, donc on sent qu'il y a un mouvement qui se fait, une écoute, et je pense qu'aussi les élus de plus en plus sont aussi sensibles à ces questions-là et évoluent sur un certain nombre de pratiques, je pense aux cantines scolaires, où on voit quand même de plus en plus des approvisionnements de qualité qui sont intégrés.
Même si ça reste difficile.
Oui, ça reste difficile. Alors, quelqu'un du café me tape sur l'épaule. Monsieur Guillaume, n'est-ce pas, je crois ? Une question, une remarque.
Juste une réflexion. Je voulais juste noter que le Crous de Haute-Normandie est en train de mettre en place le pain bio dans tous ses restaurants universitaires. Et peut-être il part sur l'objectif de mettre les fruits aussi bio. Je voulais juste noter cette chose-là.
C'est une très bonne chose.
Très bonne nouvelle, merci. Félicitations aux Crous de Haute-Normandie. Le pain, c'est bien, les fruits, c'est bien, et puis bientôt, ils passeront à plus, les légumes, etc. Donc, et puis, voilà, il y a quand même, même si on n'a pas une production énorme en Haute-Normandie, il y a quand même des choses.
Non, surtout sur le fruit, c'est compliqué.
Ouais. D'accord. Ben, merci beaucoup, Valérie Auvray, d'être venue au micro d'HDR à l'occasion de ce Parking Day pour nous parler des Robins des Bio. On rappelle l'adresse de la boutique ?
Oui, c'est zone d'activité Grand Anoury à Elbeuf, sur les berges de Seine.
Et puis,
très belle vue sur la Seine.
Voilà, donc l'adresse internet, donc il y a lesrobindesbio.fr et puis le blog, c'est...
Non, mais on est redirigé directement, ouais, voilà, c'est beaucoup plus
simple. Parce que le nom n'est pas évident à dire.
Bah, merci Rebecca, merci HDR.
Et bien, bonne continuation. Nous continuons cette émission avec un petit peu de musique, allons-y.
Turn me inside of a bottle.
Jill Scott Heron, The Bottle. Et sans perdre un instant, retournons à vélo avec Emilien pour la dernière partie de son reportage.
Je le vois se rapprocher, s'avancer puis s'emballer, pédaler et s'en aller.
Et donc, vous pouvez, chers auditeurs, relever que c'est, selon Emilien, la 27e boulette de mon après-midi dans cette émission. Soyez indulgents, hein, 4 heures d'émission quand même. Parce qu'en fait, ce bout de reportage, on l'a déjà écouté, on a déjà écouté tout le reportage d'Emilien. Tu vois, c'est que j'étais prête, on s'en lasse pas, j'étais prête à écouter encore un dernier morceau. Donc, pour finir cette émission, les 12 dernières minutes qu'il nous reste, eh bien, on va rééchanger avec l'association Guidoline, parce qu'ils nous accueillent, ils étaient partenaires de cette émission. Ils nous accueillent dans leur café depuis qu'il pleut dans les rues rouennaises. Donc Simon te retrouve après ces quelques heures. Donc ce que je peux constater, c'est qu'à Guidoline, ça fourmille de monde. L'atelier juste derrière est plein, ça répare, ça discute. Tu cours dans tous les sens.
C'est la course, ouais.
Voilà. Donc comme quoi, il y avait un réel besoin de créer un lieu comme ça.
Malgré la pluie, il y avait un besoin.
Donc on a en début d'émission pas mal parlé. De l'association. Je voudrais aujourd'hui, en fin d'émission, qu'on parle plutôt de ce qui arrive très prochainement. Notamment demain, il y a un rendez-vous bien particulier.
Oui, demain, il y a un rendez-vous pour les Journées du patrimoine. On organise avec la ville un rallye photo à vélo. En fait, le concept, il est un peu simple, c'est un peu comme une chasse au trésor. Les gens peuvent venir, il n'y a pas d'inscription, et à partir de 14h, on lance le départ. On leur donne une liste de 35 cibles à trouver dans Rouen. Des choses un peu plus patrimoine, des choses un peu plus insolites. Et ils ont 2 heures équipés d'un appareil photo pour prouver qu'ils ont vu les objets, pour sillonner Rouen à vélo. Et au retour, nous, on vérifie un petit peu les photos et on fait un petit classement symbolique. C'est pas le but, c'est pas une compétition, c'est un amusement. Et on fait un petit classement et il y a des petites places de musées autres à gagner pour les participants et un petit goûter pour tout le monde.
D'accord, donc là, il y a 35 donc, balises qui ont été installées dans la ville depuis quelques jours.
C'est ça, c'est pas des balises, c'est des lieux, par exemple. L'année dernière, on avait le Jardin des Plantes, ce genre de choses, des petits objets à trouver dans des lieux assez atypiques. Mm-hmm. L'idée, c'est aussi de découvrir des endroits que même nous, on connaissait pas, en fait, quand on a fait la liste avec... Mm-hmm. Personne dit patrimoine, on était étonnés de découvrir certaines choses. Et puis nous, on a rajouté une petite couche d'amusement, se prendre avec des gens dans la rue, voilà, il y a des petites surprises. Et puis au retour, voilà, un petit classement. 2 heures à vélo.
2 heures à vélo, il fera beau demain.
Ouais.
Ouais. On va reprendre les danses du soleil.
Mitigé le matin, mais beau l'après-midi, c'est sûr.
Bon, bah parfait. Et donc, ce rallye vélo de demain, c'est une initiative propre ou vous êtes en partenaire? Vous avez des partenaires autour de ce projet-là?
Ouais, alors en fait, on a fait une première édition l'année dernière. On trouvait ça... on avait vu quelque chose un peu dans le même esprit sur Paris. On s'est dit, ça pourrait être marrant de le mettre sur une date un peu clé, on va dire, dans l'agenda de la ville. Et il y avait les Journées du patrimoine. Du coup, on s'est rapproché de la ville, qui nous ont aidés, eux, sur les objets à trouver, plutôt au patrimoine. Et du coup, ils nous aident aussi sur l'organisation, pour nous mettre à disposition un petit goûter. C'est eux qui participent sur ça. Donc voilà, ça s'est renouvelé parce qu'on était 120 l'année dernière, donc ça avait bien marché.
Ouais.
Ouais.
Mm-hmm.
Alors qu'il y avait une petite com, donc là, on a essayé de faire un peu plus cette année. Le but, c'est d'être de plus en plus nombreux et que ça devienne un gros événement, quoi.
D'accord.
Et que ça soit redondant tous les ans, vu que ça fonctionne bien.
Donc demain, vous qui utilisez encore votre voiture le dimanche dans Rouen, faites attention, les rues seront pleines de 200, voire plus, cyclistes à la recherche de ces lieux insolites dans la ville.
Et je précise, c'est pas une course, c'est accessible à tout le monde. Il y a des enfants, il y a des gens qui font pas de vélo, il y a des gens... Voilà, c'est pas du tout un esprit course, c'est vraiment une sortie ludique, quoi.
Voilà, c'est un instant de partage, on fait à son rythme.
Ouais, exactement.
Et donc le point de départ, c'est 14h...
14h ici.
Ici, donc 36 rue Molière.
Pas besoin de s'inscrire, on vient. Si les gens ne sont pas en équipe, on formera des petites équipes avec les gens qui sont seuls. Mm-hmm. Il faut juste avoir un appareil photo par équipe. Mais voilà, et au plus simple, on distribue un plan de Rouen, les cibles, et puis après, on part 2 heures. Avec attention, des points de retard si on arrive en retard.
Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, donc soyez vigilants, faut pas arriver en retard au retour.
Et les gens sont autonomes. Voilà.
D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous de Guidoline dans les semaines ou les mois qui viennent ?
Dans les semaines, je crois pas. Dans les mois, on risque de refaire comme l'année dernière une balade fantôme au moment d'Halloween.
Ah, sympa.
Voilà, c'est encore donc, un peu dans...
déguisé ?
Déguisé avec les enfants pour aller chercher des bonbons dans les magasins dans Rouen et aussi sensibiliser un petit peu à être en vélo la nuit avec ses lumières. Mmh. Voilà, ça avait, c'était assez drôle. On avait décoré l'atelier, le café et tout le monde s'était déguisé. Donc ça, on avait fait ça là de manière à une petite échelle. On va essayer de voir si on ne peut pas le faire un peu plus avec d'autres associations. Donc on lance l'appel. Hein, s'il y a
des gens
qui veulent essayer de nous retrouver par rapport à ça, ça se rapproche. On est déjà bientôt au mois d'octobre. Donc voilà le prochain rendez-vous. Et après, on arrive en hiver, donc le vélo, c'est un peu plus dur. Donc on prépare la rentrée, quoi.
D'accord, très voilà. Bien. Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été partenaire de Radio HDR pour cet événement, pour cette émission. Et puis, au plaisir de vous suivre. Alors, on peut vous retrouver, alors, votre site internet, hein, guidoline.com, tout simplement. Ouais. Vous êtes sur Twitter, j'imagine aussi sur Facebook.
Facebook, ouais,
Facebook. Voilà,
ouais.
Donc on vous retrouve sans souci. Ouais. Pour vous suivre au gré des aventures de l'association. Merci encore, Simon.
Pas de souci.
Et puis, je te laisse retourner dans l'atelier. On t'attend déjà,
ouais, c'est ça. On va aller courir un peu.
Merci à toi.
Merci.
Il nous reste maintenant quelques minutes à passer ensemble. Alors, je vais tendre le micro vers les habitués d'HDR, les chroniqueurs du Ton Libre. Alors, il y a Emilien qui vient. Peut-être aussi Guillaume. Allez, Guillaume. Voilà, celui qui nous a annoncé la bonne nouvelle, le pain bio pour les étudiants rouennais.
Et bientôt les fruits.
Et bientôt les fruits. Et Emma, alors, Parking Day, ça vous a plu ? On remet ça l'année prochaine ?
Oui, super, vraiment super édition. Même pas gâché par la pluie.
Même pas. Même le mauvais temps ne nous fait même pas peur, ne nous atteint pas.
On se faisait réflexion avec Guillaume, on se disait l'ambiance café est vraiment, vraiment plaisante aussi.
Oui, hein, ouais, c'est aussi très sympa. En fait, il faudrait inventer un autre événement, parce que Parking Day, il faut quand même essayer au maximum de rester dans la rue.
Le Café Day.
Mais voilà. Peut-être des émissions spéciales de Ton Libre qu'on pourrait organiser ici ou ailleurs.
C'est une très bonne idée. Alors, je pense que Nico, lui, il hausse les sourcils parce que c'est vrai que c'est aussi une logistique. Et d'ailleurs, il faut remercier à la fois l'ensemble de l'équipe HDR et Nico en particulier parce que c'est du boulot, de l'installation. Voilà, c'est être là le week-end. Pour cette émission spéciale.
On le remercie, mais il vient de nous prouver que ça marche très bien et que c'est faisable.
C'est vrai. Alors Guillaume, en à peine une minute, cet été tu étais au Japon, tu es passé par Tokyo, je crois. Est-ce que tu as l'impression que là-bas, l'espace de la rue est plus partagé aux autres types de mobilité, comme une première sensation comme ça ?
En tout cas, il est différent. Mmh. J'ai pas ressenti l'oppression de la voiture, par exemple, alors que c'est une ville qui est quand même énorme. Je rapproche mon micro. C'est une ville qui est très organisée. Je pense que ça vient aussi de la pression sociale où les trottoirs sont bien compartimentés avec un côté vélo, un côté piéton qui va dans un sens, l'autre côté piéton qui va dans l'autre sens. En termes de transport doux, de mode doux, il y a énormément de vélos, beaucoup plus dans une ville comme Kyoto. Qui est une ville beaucoup moins verticale que Tokyo, beaucoup plus horizontale, qui est très jolie au passage, et où les vélos sont extrêmement développés. L'utilisation du vélo est extrêmement développée.
Mmh. Emma, alors toi, cette édition de Parking Day, alors c'est vrai que dans ta chronique, tu nous as alerté, enfin en tout cas interpellé sur les enjeux du partage de l'espace, de sa privatisation ou pas. Est-ce que ça te donne envie d'encore plus occuper la ville, interpeller les gens, les auditeurs peut-être d'HDR.
Oui, je pense qu'il faut que ça questionne tout le monde. Pas faire des petits. C'est bien de faire des actions, mais il faut que ça se généralise un peu plus.
Voilà, que ça se pollinise et que ça se transforme, que les initiatives de ci, de là puissent prendre une autre dimension à travers peut-être des politiques publiques d'envergure pour un véritable partage de la ville.
Voilà. Okay. Rebecca lit dans mes pensées.
Je regarde, je te regarde au fond des yeux et je vois tout ça. Je lis
tous les mots qui défilent. Tu es transparente pour Rebecca.
J'espère que même aussi pour vous, cette émission, ça a été l'occasion de peut-être de découvrir des choses nouvelles, des associations, des personnes, de rencontres. Emilien.
Oui, complètement. Ça donne plein d'envie, ça ouvre plein de possibilités, effectivement. Des partenariats possibles avec des écoles, des associations également.
Cultiver des cucurbitacées en plein cœur de ville,
ouais.
Et passer quelques instants ensuite à coudre.
Oui, je c'est vrai. Ça me donne des envies de couture, ça me donne des envies de potager.
C'est super. J'espère que vous aussi, aux auditeurs, ça vous donne des envies. Guillaume, ça te donne envie de quoi ? À part de finir ta bière devant toi.
Merci, Rebecca. Ça me donne envie de faire un clin d'œil à une cantine associative qui se trouve rue Audrebec, oui. Je crois que tu connais très bien, Rebecca, qui s'appelle Faites-le vous-même. Mm-hmm. Et c'est une cantine où Marie vous accueillera avec... grand plaisir et bonne humeur, où tout est fait maison, c'est des plats vraiment pas chers, où je pense qu'on peut manger pour 4-5 euros maximum si, pour un plat. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, je sais pas quel numéro c'est, mais c'est dans le haut de la rue Audrebec.
Oui.
Donc je pense que... 92.
92,
on me
merci.
Souffle 92.
Voilà. Oui, chers auditeurs, vous pouvez aussi... Il y a plein de pépites finalement dans Rouen, qu'on ne connaît pas bien.
Et
oui.
J'ajoute juste... qu'il y a toujours plusieurs plats au choix, dont un plat végétarien pour les végétariens qui ont toujours peur de manger quelque part.
D'accord, très bien. Merci beaucoup à vous trois, c'est l'heure des remerciements. Alors je vais essayer d'être exhaustive à peu près, il me reste un peu moins de 2 minutes, donc ça devrait le faire. Alors je renouvelle mes grands remerciements à Nico. Sans lui, cette émission n'aurait pas été possible. Donc un immense merci. Et aussi, puisqu'il s'est occupé de la programmation musicale, ce n'est pas anodin. Merci à lui. Merci à tous les invités. Guidoline d'abord, la librairie Les Mondes Magiques, Échelle Inconnue, Guillaume Laurent pour la musique en live, l'association Sabine, le Café Couture, les Robins des Bio, Emilien pour son super reportage sur le vélo. Bref, merci à vous tous. Sans vous, cette émission n'aurait pas été possible. Je vous dis ciao, à bientôt sur les ondes d'HDR. Soyez un peu fous, continuez de rêver.